Vous écoutez On lit pour vous.
"23 juin, Journée internationale des veuves, un texte de la rédaction, paru sur le site de l'ONU. Des femmes invisibles aux problèmes invisibles. Pour de nombreuses femmes dans le monde, la perte dévastatrice d'un partenaire est amplifiée par un combat de longue haleine pour leurs droits fondamentaux et leur dignité. Malgré le fait qu'il y ait plus de 258 millions de veuves dans le monde, celles-ci ont, historiquement, été laissées dans l'ombre et souvent sans mesure de soutien dans nos sociétés. Les conflits armés, les déplacements et les migrations laissent des dizaines de milliers de femmes veuves et de nombreuses autres dont les partenaires ont disparu. Leurs expériences et besoins uniques doivent être mis en avant et leurs voix doivent tracer le chemin. Les veuves se voient souvent refuser leurs droits de succession ou confisquer leurs biens après la mort de leur conjoint. Elles font parfois aussi face à une stigmatisation et à des actes de discrimination sans précédent, car elles sont taxées d'être, à leur tour, porteuses de la maladie. À l'échelle mondiale, les femmes ont moins de chances d'avoir accès à des pensions de vieillesse par rapport aux hommes, de sorte que le décès d'un conjoint peut entraîner le dénuement des femmes âgées. Certaines veuves n'ont pas d'accès possible aux comptes bancaires, par exemple, entravant leur capacité à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Les familles monoparentales et les femmes âgées célibataires, étant déjà particulièrement vulnérables à la pauvreté, c'est une question qui nécessite d'urgence toute notre attention. Bien que les données restent limitées, on estime qu'il y a environ 258 millions de veuves dans le monde. 1 sur 10 vit dans une pauvreté extrême. L'absence de données solides et fiables reste l'un des principaux obstacles à l'élaboration de politiques et de programmes d'élimination de la pauvreté, de la violence et de la discrimination dont sont victimes les veuves. Plus de recherches et de statistiques ventilées par statut matrimonial, sexe et âge sont nécessaires pour mieux évaluer l'incidence de leur maltraitance. À l'occasion de la Journée internationale des veuves, le 23 juin, découvrez certains des problèmes qui touchent les veuves dans le monde et ce qu'il faut faire pour sauvegarder et faire progresser leurs droits. La situation des veuves. Pauvreté. Souvent privées d'éducation, les veuves n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. L'accès limité ou absent au crédit et à d'autres ressources financières aggrave leur situation économique. De nombreuses veuves dans les sociétés traditionnelles sont en effet privées du droit d'hériter des biens, notamment des droits fonciers. Sans le droit d'hériter, les veuves tombent dans une situation précaire, voire dans la pauvreté, et deviennent dépendantes de la charité de la famille de leur époux. Dans certains pays où le veuvage est considéré comme un statut social très bas, des milliers de veuves sont reniées par les membres de leur famille et privées de logement. Cela les oblige à chercher des emplois peu rémunérés, tels que femmes de ménage, ou se tourner vers la mendicité ou la prostitution. Dans certains cas, les veuves peuvent aussi être amenées à rembourser les dettes contractées par leur mari décédé. Violence. Particulièrement en Afrique et en Asie, les veuves se retrouvent victimes de violences physiques et mentales, dont des abus sexuels, liés à des litiges en matière de succession, de terres et de propriétés. Les veuves sont contraintes de participer à des pratiques traditionnelles nuisibles, dégradantes et même mortelles dans le cadre des rites d'inhumation et de deuil. Dans un certain nombre de pays, par exemple, les veuves sont obligées de boire l'eau dans laquelle le corps de leur mari a été lavé. Les rites de deuil peuvent également impliquer des relations sexuelles avec des parents masculins, le rasage des cheveux ou la scarification. Santé. Une mauvaise nutrition, un logement inadéquat et des épisodes répétés de violence, accompagnés d'un manque d'accès aux soins de santé, ont un impact négatif sur le bien-être physique et mental des veuves. Leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive ne sont souvent pas pris en compte, ce qui les rend particulièrement vulnérables dans le contexte du VIH et du SIDA. Situation de conflit. Un grand nombre de femmes deviennent veuves au cours ou à la suite d'un conflit armé. Elles doivent alors subvenir seules aux besoins de leurs enfants, parfois dans un pays qui n'est pas le leur, voire même dans un camp de réfugiés. Dans certaines parties de l'Est de la République démocratique du Congo, par exemple, environ 50% des femmes seraient veuves. Il y aurait environ 3 millions de veuves en Irak et plus de 70 000 à Kaboul, en Afghanistan. En plus des crimes et des atrocités dont elles ont été les témoins, les veuves peuvent elles-mêmes être l'objet de violences, notamment sexuelles, en période de guerre. Violées et mutilées, beaucoup d'entre elles contractent le sida. Améliorer la situation des veuves. Afin de porter l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation des veuves et ses enjeux, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 23 juin Journée internationale des veuves. Aujourd'hui, plus que jamais, cette journée est l'occasion d'agir et de faire en sorte que les droits et la situation des veuves soient reconnus. Il s'agit notamment de leur fournir des informations sur l'accès à une part équitable de leur patrimoine, de leurs terres et de leurs ressources productives. Une pension et une protection sociale qui ne sont pas basées uniquement sur l'état matrimonial. Un travail décent et un salaire égal, ainsi que des possibilités d'éducation et de formation. Donner aux veuves les moyens de subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille permet de lutter contre la stigmatisation sociale qui provoque l'exclusion et des pratiques discriminatoires ou préjudiciables. Au niveau du droit international, les droits des veuves sont indirectement garantis par la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant. Lorsqu'une législation nationale spécifique existe pour protéger leurs droits, la faiblesse du système judiciaire de nombreux États compromet la manière dont ils sont défendus en pratique. Il arrive que la discrimination de la part même des spécialistes des questions judiciaires décourage les veuves qui abandonnent le recours à la justice pour obtenir réparation. Pour faire face à ces violations, des programmes et des politiques d'élimination de la violence à l'égard des veuves et de leurs enfants doivent être mis en place, ainsi que l'offre d'un soutien supplémentaire, tel un soutien financier. Celui-ci permettrait notamment aux enfants de continuer leur éducation, brisant ainsi le cycle intergénérationnel de la pauvreté. L'autonomisation des veuves, grâce à un accès aux soins de santé, à l'éducation, à un emploi décent et à la prise de décision au sein de la société, leur permettrait de vivre à l'abri du besoin. L'amélioration de leurs conditions entraînerait finalement une réduction des inégalités et de la pauvreté, accélérant la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Dans les situations post-conflit, les veuves devraient être invitées à participer pleinement au processus de consolidation de la paix et de réconciliation afin de s'assurer qu'elles puissent contribuer à une paix et une sécurité durable. Le saviez-vous? On estime qu'il y a environ 258 millions de veuves dans le monde. Une veuve sur 10 vit dans une pauvreté extrême. Dans certaines parties de l'Est de la République démocratique du Congo, par exemple, environ 50% des femmes seraient veuves. Les veuves sont parfois contraintes de participer à des pratiques traditionnelles dangereuses, dégradantes, ou ayant parfois des conséquences mortelles dans le cadre des rites d'inhumation ou de deuil. C'était 23 juin, Journée internationale des veuves, un texte de la rédaction paru sur le site de l'ONU.
L'accès aux lacs et rivières, un défi national. Un texte de Université de Montréal Nouvelle, paru le 15 juin 2026 sur le site de l'UDM. Selon un nouveau rapport, le Québec est marqué par un enclavement à grande échelle des eaux publiques au sein et à proximité des milieux de vie. L'été est à nos portes et avec lui, les journées chaudes et ensoleillées. Alors que l'accès à l'eau est plus important que jamais dans un contexte de réchauffement du climat, d'urbanisation, de diversification des loisirs et en même temps d'une amélioration générale de la qualité des eaux, on constate que les rives accessibles se réduisent comme peau de chagrin. Qu'il s'agisse de rives, de cours ou de plans d'eau, qu'on soit en ville, en banlieue ou à la campagne, l'accès à ces lieux de détente et de divertissement demeure très limité pour la population québécoise. Selon un nouveau rapport préparé par Sébastien Rioux, professeur au département de géographie de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie politique de l'alimentation et du bien-être, et Rodolphe Gonzalez, professeur au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal, dans environ 75% des municipalités du Québec, moins de 1% des rives sont accessibles. Au moins la moitié des plans et cours d'eau sont privatisés à plus de 95%. Près de 40% des lacs sont entièrement enclavés par la propriété privée. Au total, des 48 000 km de rives analysées par les deux experts, moins de 2% sont accessibles. Que ce soit pour pêcher, faire du canot ou du kayak ou tout simplement admirer la vue, le défi d'accès est de taille, quand l'accès n'est pas tout simplement impossible. Le rapport offre la première analyse quantitative de l'enclavement des eaux publiques du Québec depuis la reconnaissance juridique du problème à la fin des années 1960. Malgré certaines variations territoriales, le rapport conclut que le Québec est marqué par un enclavement à grande échelle des eaux publiques au sein et à proximité des milieux de vie. Cela s'exprime avant tout par un très faible taux d'accès public à l'eau. L'emprise de la propriété privée riveraine explique en grande partie l'ampleur du phénomène. les données des chercheurs confirment, selon eux, l'existence d'un processus très avancé de privatisation des eaux publiques. En prévision du dévoilement prochain du rapport, nous avons demandé à Sébastien Rioux de faire un résumé de la situation. Question-réponse. Dans votre étude, vous dites que l'accès de plus en plus restreint à l'eau représente une dépossession à grande échelle de notre héritage collectif. De quoi s'agit-il au juste? Le problème qui est au cœur de notre rapport est d'une simplicité désarmante. Malgré le caractère public de l'eau et l'immensité du réseau hydrographique québécois, l'accès à l'eau est difficile, voire impossible, au Québec. Dans un contexte où le législateur a favorisé l'occupation privative des rives sans prévoir de droit d'accès ou de passage, l'expansion de la propriété privée riveraine a progressivement enclavé les lacs et rivières de l'écoumène québécois. L'ampleur du problème est telle que de nombreux plans d'eau sont aujourd'hui inaccessibles. Bien que les eaux demeurent publiques, elles sont, dans les faits, largement privatisées. Comment les choses ont-elles évolué historiquement et quel rôle les gouvernements ont-ils joué? Le gouvernement du Québec, qui connaît le problème depuis près de 60 ans, n'a rien fait pour corriger la situation. En fait, il a lui-même contribué à l'enclavement des eaux publiques, et ce, d'au moins deux façons. D'une part, il a permis la vente massive de baux de villégiature entre la fin des années 1950 et le début des années 1980. En effet, ce sont des milliers de terrains publics riverains situés à proximité des centres urbains qui, au lieu de servir d'accès de proximité à l'eau et à la nature pour les populations urbaines, sont passés dans le domaine privé. D'autre part, en abolissant au tournant des années 1990 la réserve des Trois Chênes, qui, depuis 1884, attribuait à l'État provincial la propriété d'une bande riveraine d'environ 60 mètres, le gouvernement du Québec a cédé, gratuitement et en pleine propriété, cet espace significatif aux propriétaires des lots adjacents. Même si cette rétrocession ne s'appliquait qu'aux lacs et cours d'eau non navigables et non flottables, elle aurait néanmoins pu être le fer de lance d'une nouvelle approche ayant pour objectif de garantir le droit d'accès de la population aux eaux publiques. Au lieu de prendre ses responsabilités à titre de fiduciaire de l'héritage collectif, le gouvernement du Québec a opté pour une spoliation massive des terres publiques riveraines. Existe-t-il des variations territoriales? Quels sont les effets de ces variations sur l'accès à l'eau? Le taux de privatisation des rives est de plus de 70 % dans 9 régions. Sans grande surprise, la propriété privée riveraine est particulièrement forte dans les régions centre. La propriété privée riveraine occupe généralement moins de place dans les régions éloignées, notamment à cause de l'importance des infrastructures énergétiques et des zones récréatives provinciales, mais surtout en raison de l'importance du territoire non cadastré. Bien que l'enclavement des eaux publiques du Québec soit généralisé dans notre zone d'étude, ses effets sont inégalement distribués sur le territoire. Afin de mieux comprendre ses conséquences, il faut s'intéresser plus précisément à la relation entre l'hydrographie et la démographie sur un territoire donné. Des 8 régions les plus peuplées, qui représentent un peu moins de 80 % de la population, 6 occupent le bas du classement des accès effectifs par habitant. La compétition pour l'accès à l'eau est beaucoup plus forte dans ces régions. Malgré des taux d'accès à l'eau généralement plus élevés, l'accessibilité réelle par habitant est faible dans les grandes villes. De plus, nos données confirment que les cours et plans d'eau des zones périurbaines et des milieux ruraux sont fortement enclavés. Plus largement, les rares accès existants et la compétition que cette situation engendre favorisent un phénomène de municipalisation des eaux publiques, caractérisé par l'utilisation des pouvoirs de réglementation en vue de décourager, voire d'interdire l'accès des non-résidents aux eaux publiques situées en territoire municipal. En somme, dans cette province où les eaux n'ont de public que le nom, l'enclavement à grande échelle des plans et cours d'eau constitue avant tout un processus de privatisation du territoire public. Cette dépossession à grande échelle de notre héritage collectif n'a pas seulement pour effet de miner toute tentative de collectivisation des accès et des paysages riverains, elle a aussi pour conséquence de nier notre droit d'usage des eaux. C'était l'accès aux lacs et rivières, un défi national, un texte de Université de Montréal Nouvelle, paru le 15 juin 2026 sur le site de l'UDM.
La disparition du bavardage. Un texte de Dany Laferrière, paru le 15 mai 2026 dans La Presse. Ton nom? La scène se passe dans la petite boutique de souvenirs d'un aéroport et implique une femme, sa fille et la vendeuse. J'attendais mon tour dans la file. La petite fille de 4 ans se tient cachée derrière une plante verte pendant que sa mère passe à la caisse. C'est le genre d'enfant, on le sent, dont la personnalité à la maison est à l'opposé de celle qu'elle montre à l'extérieur. La vendeuse entreprend sans succès de lui faire la conversation. La mère refuse de répondre à sa place, un peu pour montrer qu'elle fait de l'espace à la petite et beaucoup pour lui apprendre ce rituel absurde qui fait de nous des êtres humains, celui de parler pour ne rien dire. La petite fille ne comprend pas pourquoi ça devient si important qu'elle fasse son numéro. Et elle l'a raté en refusant obstinément de répondre à la plus simple des questions. « Comment t'appelles-tu? » Après des millénaires de rapports quotidiens et de frottements constants dans les lieux publics, on n'a encore rien trouvé d'autre pour s'adresser à un enfant que cette question dont on écoute à peine la réponse. Il est vrai qu'on la pose sur tous les tons, avec gravité, en chantant, en minaudant ou en la répétant plusieurs fois de suite, comme si la petite était sourde ou idiote. Si la fille rate ce premier contact, il n'y aura pas de seconde chance et ce sera à la mère de s'expliquer. Elle se contentera alors d'un sourire gêné. Rien n'est plus pénible dans la vie quand on a 4 ans et qu'il faut faire quotidiennement la même réponse à des inconnus qu'on ne reverra plus ou qui auront vite oublié jusqu'à notre visage après s'être approchés si près de nous. Ce jeu, dont on ignore l'impact sur une sensibilité d'enfant, ne cessera jamais, semble-t-il. Il arrive que la petite fille se voit obligée de faire 5 à 6 performances dans la journée. À ce stade, c'est du théâtre ambulant. Et si on évitait d'attirer la petite fille dans cet étrange club dont elle refuse, à l'évidence, de faire partie? D'abord en évitant de lui poser cette question, dont elle a le soupçon que tout le monde autour d'elle connaît la réponse, et ensuite en permettant à son imagination de virevolter afin d'absorber autant de minuscules faits possibles que le théâtre de la rue propose. Ainsi, on pourra se réveiller dans un monde neuf parce qu'une banale question aura disparu. Peut-être qu'une telle situation a perduré parce qu'on reste trop centré sur nous-mêmes et qu'on n'est pas assez attentif à la gêne d'une petite fille. Fille ou garçon? Les enfants ne sont pas toujours adorables, surtout quand ils sont pris dans un théâtre dont ils ignorent les règles. Imaginez leur colère quand ils découvriront plus tard, à l'adolescence, le vide de ces jeux d'adultes. En attendant, on s'attaque à la deuxième question qu'on tente d'effacer définitivement de la carte. Est-ce une fille ou un garçon? Prudente, la vendeuse, tout en rendant la monnaie, tente de clore la conversation en glissant que les garçons sont toujours plus timides au début que les filles, mais que, vous verrez, il finira par éclore. La femme lui répond que c'est une fille et qu'elle s'appelle Julia. Au lieu d'éclater de rire en s'excusant de sa méprise, comme on faisait il y a à peine 20 ans, la vendeuse se fige. Dire à une fille qu'elle est une fille est déjà douteux. Se tromper de genre, dire à une fille qu'elle est un garçon, c'est aujourd'hui condamnable. D'où vient ce goût irrépressible de nommer les gens par leur genre? Pourquoi c'est maintenant qu'on se rend compte d'une telle absurdité? qu'est-ce qui a changé depuis l'Homo Faber? Les deux femmes se tournent avec une certaine anxiété vers moi. L'instant d'après, je compris que nous étions dans une nouvelle ère où chacun se méfie de l'autre. Nous sommes cernés par des agents identitaires, dans un sens comme dans l'autre. Si on continue sur cette pente, personne n'osera plus dire un mot dans moins de 10 ans tant qu'on ne saura pas la nature officielle de la personne en face de nous, une nature qu'elle refuse de révéler tant qu'on n'a pas fait la faute. Mais que certains soient encore définis par leur couleur dans un monde en ébullition sur les graves questions de genre est une anomalie. On ne peut pas continuer à dire qu'il est noir ou blanc ou jaune ou rouge quand on ne peut pas dire si c'est une fille ou un garçon. Bien sûr que ce papotage constant, traînant à sa suite quelques clichés tordus, avait la fonction de meubler le silence et peut-être d'adoucir la solitude de certains. La vie telle que nous la connaissons vient de changer sous nos yeux ahuris. La conversation est devenue un sport aussi dangereux que la tauromachie dans un salon. Tina Mère, je viens de voir passer, sous mes paupières closes, la plus célèbre adolescente de la littérature québécoise, la merveilleuse Tina Mère de Portanqueue, celle du docteur Ferron. Elle a passé son enfance dans une certaine insouciance, protégée par les arbres du bois, dont un amélanchier. Toutes les interrogations de notre époque se retrouvent dans ce mince roman. Dès la première phrase, elle se présente. « Je me nomme Tina Mère de Portanqueue ». En fait, la décision de porter un nom n'a jamais été d'elle. Elle s'accroche simplement à une branche de son arbre généalogique. Tina Mère reste toujours au premier plan de l'histoire, mais on entend la voix de Ferron, trop pressée de planter le décor dans lequel Tina Mère va vivre. Tina Mère confirme « Je ne suis pas fille de nomade ou de rabouin ». En effet, sa vie durant, elle se rappellera cet enchantement d'être entourée d'arbres qui pouvaient exprimer leurs émotions comme s'ils avaient une sensibilité propre. La mélanchier de Ferron est un éloge de ce monde vert qui tend à disparaître de plus en plus de notre vue comme de notre vie. Certains vivent déjà dans la nostalgie d'une époque révolue. Alice est toujours au pays des merveilles, mais Tina Mère, plus lucide, choisit le bon côté des choses. Ferron aurait voulu que Tina Mère soit plutôt une amie de Mafalda. Ici, La Mélanchier, le roman québécois préféré de Foglia, devenait une des lectures de cet été. C'était « La disparition du bavardage », un texte de Daniela Ferrière paru le 15 mai 2026 dans La Presse.